bienvenue. Nous allons passer ensemble ce début d'après-midi jusqu'à 15h sur Europe 1. Aujourd'hui, un sujet vraiment casse-tête, surtout pour ceux qui n'arrivent pas à trouver la solution, la migraine. Quel enfer ! 12 millions d'entre nous souffrent de cette pathologie qui n'est pourtant pas toujours prise au sérieux. Étau, barre, marteau-piqueur, autant de mots qui expriment cette douleur lancinante qui nous cloue dans le noir, loin de la lumière et du bruit. Vécue comme un véritable calvaire, la migraine est un ouragan qui dévaste tout sur son passage. Vie familiale, vie sexuelle, vie professionnelle. Alors, comment faire pour s'en débarrasser ? Existe-t-il aujourd'hui des traitements vraiment efficaces ? Ou est-on condamné toute sa vie à souffrir en silence, une poche de glace vissée sur la tête ? Mais tout de suite, vos avis au micro d'Europe 1.
Alors ça monte progressivement, on a du mal à l'arrêter, on supporte plus la lumière, les tempes qui battent fort. Ça monte d'un coup, comme ça, ça surprend, et puis de toute façon, il n'y a rien à faire. Ça m'arrive quand, par exemple, en fin de journée, j'ai pas assez bu d'eau, donc je bois 1 demi-litre, et puis ça commence à aller mieux. Ça passe un petit peu, j'ai découvert assez récemment que c'est même lié au fait d'avoir faim. En fait, quand j'ai faim, j'ai la migraine.
Ah, disons que ça peut parfois être un prétexte pour éviter une sortie entre amis, quelque chose avec son mari. Parfois, ça peut être une bonne raison d'éviter quelque chose, quoi.
Oui, il m'est arrivé quelquefois d'avoir la migraine et j'avais très très mal à la tête et obligée de me coucher. Alors, j'ai des amis qui ont des vraies migraines et mes amis qui, elles, sont plus habituées, ont des remèdes à elles qu'elles ont trouvés. J'ai une amie qui surélève les jambes, elle a l'impression que ça passe plus vite, mais voilà, c'est chacun ses petits trucs et s'adapte à sa situation.
La migraine, c'est le samedi soir et les filles, elles ont mal à la tête.
Alors, les enfants peuvent-ils aussi souffrir de migraines ? Ce trouble ne condamne-t-il pas à passer pour le ou la rabat-joie de service ? Pourquoi les femmes sont-elles 3 fois plus atteintes que les hommes ? Mais aussi, la migraine n'est-elle pas parfois l'excuse parfaite, le joker idéal pour éviter de se plier au devoir conjugal ? Nous attendons vos témoignages au 01 42 32 15 15.
Avec nous aujourd'hui, le docteur Marc Schwab. Bonjour docteur. Bonjour. Vous êtes neuropsychiatre, auteur de plusieurs ouvrages dédiés à ce sujet, dont Maux de tête et migraine aux éditions First. Sarah Bidbol, bon, la fameuse patineuse, vice-championne du monde, 10 fois championne de France en couple. Vous êtes en tournée dans toute la France jusqu'au 18 mars avec les Étoiles de l'Atlas. Migraineuse depuis l'adolescence. Oui. Vous allez nous raconter, Sarah, bonjour.
Bonjour.
Et Delphine Ray, auteur du livre Les Tribulations d'une migraineuse chez Anne Carrière. Bonjour.
Bonjour.
Et dans quelques instants, nous aurons vu la comédienne Virginie Lemoine au téléphone. Sarah, vous est-il déjà arrivé de renoncer à monter, enfin je ne sais pas si on dit monter sur l'Atlas, mais aller en compétition à cause d'une migraine ?
En compétition, j'ai pas pu renoncer puisque c'est vrai quand on est au championnat d'Europe et qu'on joue une médaille, on est obligé de monter sur glace. Donc j'ai dû patiner avec un gros mal de tête et puis mes éléments techniques étaient, il est vrai, diminués. Par contre, en gala, il m'est arrivé de ne pas patiner en deuxième partie tellement j'avais mal.
Est-ce que vous pouvez me décrire avec vos mots ce que vous ressentez ? Pour expliquer aux auditeurs qui n'ont pas cet handicap-là.
C'est terrible parce que ça fait comme un étau dans la tête. On a envie d'être dans le noir, on a du mal à suivre les conversations, il nous faut un gant frais sur la tête. On supporte rien, rien du tout et on ne peut rien faire. C'est-à-dire qu'il faut juste se mettre dans le noir, s'allonger avec un gant et se mettre au repos. Donc il est vrai que quand on est en compétition ou au championnat du monde, avec les calipettes que je fais sur la glace, c'est un peu compliqué.
Et parce que on se dit sans bruit, vous êtes quand même dans une arène d'une
Bien
certaine
sûr.
Façon. Pas la tête à l'envers avec le sang, vous êtes à l'envers sur les portées. Donc est-ce qu'il y a des choses, par exemple, même en compétition, vous dites je ne le ferai pas parce que c'est, la douleur est trop importante.
Je peux alléger certains portées qui sont la tête en bas, les jambes en l'air. Il y en a un notamment qui est terrible pour ça. Et donc je l'allège, je dis à mon partenaire, à Stéphane, on le fait pas aujourd'hui. Aujourd'hui parce que je peux pas et c'est vrai que toutes ces choses-là font très très mal, tout ce qui est aussi avec la force centrifuge.
Le sang monte
à la tête
ça.
Et là franchement après ça cogne carrément dans la tête. Donc
mais
c'est
important bien de dire aux auditeurs que si vous, alors que vous êtes à ce niveau-là de la compétition, vous dites je ne ferai pas cette portée, c'est que la douleur est insurmontable parce que vous êtes habitué à la douleur.
Oui.
De par le fait que vous êtes sportif de haut niveau.
Bien sûr qu'on est habitué à la douleur.
Docteur Marc Schwab, vous pouvez nous décrire ce qu'est la migraine versus médecin ?
Versus médecin, la migraine, c'est avant tout, ça n'est pas seulement un mal de tête. C'est aussi quelque chose qui vient handicaper, vraiment, c'est un handicap sévère, la personne, dans la mesure où vous avez d'autres signes. On en a parlé de ne pas supporter le bruit, de ne pas supporter la lumière. Mais il y a également les nausées, les vomissements. Être obligé de se prostrer dans le noir avec une cuvette pour pouvoir se reposer un petit peu. Mais c'est vraiment quelque chose de très sévère.
Et quel rapport entre le vomissement, enfin entre le ventre et la tête ?
En fait, il y a un centre nerveux dans le cerveau qui est le centre du vomissement qui est stimulé pendant la migraine.
Ah bon, et donc automatiquement, c'est un symptôme automatique des grands migraineux ?
Les grands migraineux ont systématiquement la nausée et parfois des vomissements. Et les vomissements peuvent aller les soulager légèrement, mais très peu de temps. Mais c'est quelque chose qui est très handicapant.
C'est vrai, j'ai également la nausée, moi, quand j'ai très très mal à la tête. C'est vrai, mais je ne vomis jamais.
Je vous ai jamais vu vomir sur la glace, ce qui fait un peu décevant. On a Virginie Lemoine en ligne. Bonjour Virginie.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, parce que je crois que vous êtes sur un tournage.
Absolument, à Bordeaux.
Je voulais savoir comment ça s'est passé la première fois que vous avez eu la migraine et à quel moment ça a eu lieu.
Bah, la première fois, c'était enfant. J'ai pas du tout compris ce qui m'arrivait. Et j'ai toujours le souvenir de moi, enfant, couché dans le lit, tout d'un coup immobilisé avec... il faut savoir que la migraine touche une partie ou l'autre du visage et souvent une veine qui arrive vers le coin de l'œil. Et on a l'impression qu'on a des petits bûcherons qui sont en train de nous scier le crâne. Et puis, je me souviens, quand j'étais petite, d'une impression d'injustice effroyable.
Mais vous aviez quel âge en étant petite ?
Je devais avoir 8 ans, 9 ans.
Ah oui, c'est tout petit.
Migraine, hein. Oui,
et, oui. Et comment vous l'expliquez à votre maman ?
Ah ben non, ben en plus, dans les années 60, on était élevés un petit peu, on était trempés dans l'eau froide, donc j'étais priée d'aller au lit, puis quand j'ai allé mieux, bon, j'ai été mieux. Puis après, j'étais à peu près tranquille pendant quelques années, sauf que, voilà, ça venait par à coup, et puis c'était de plus en plus fort, de plus en plus fort, et puis après, j'étais atteinte de crises absolument abominables, où effectivement, on est obligé de rester dans le noir, sans bouger, avec une douleur, peut-être pour que ça parle un petit peu aux gens, si les gens ont une rage de dents, on décale ça juste au-dessus de la tête, quoi. 10 cm au-dessus, on a cette douleur-là. Quoi.
Oui, et puis la rage de dents, on arrache la dent et a priori c'est résolu. Tandis voilà. Que vous, ça peut durer longtemps ?
Ça dure minimum 12 heures.
Ah oui, minimum 12 heures. Ouais. Alors il y a une chose qui est intéressante, c'est que vous dites quand même que c'est revenu dans les années 90, quand vous avez commencé à travailler. Est-ce que vous liez vos migraines à une forme de stress liée au travail ?
Je pense, en tout cas dans mon cas c'est multifactoriel, donc j'ai commencé à peu près à centrer toutes les raisons pour lesquelles. Mais oui, certainement le stress est un phénomène déclenchant. Le stress, le cycle aussi, je prends un problème hormonal, j'ai des vertèbres soudées et puis j'ai eu plusieurs fois le coup du lapin, donc j'ai à peu près tous les critères qu'il faut pour être une bonne migraineuse. Cela dit, ça va de mieux en mieux quand même.
Alors comment vous faites, parce que si ça vous arrive juste avant d'aller sur scène, ce qui vous arrive quand même assez souvent d'aller sur scène, oui. Comment ça se passe, vous le sentez monter ?
Oui, là on sait que il va y avoir une crise qui va éclater. En fait, la meilleure chose, c'est d'appeler SOS médecin et de se faire piquer avec une piqûre antidouleur, parce que sinon c'est effroyable de jouer comme ça, c'est impossible de jouer. Et quand ça m'est arrivé en répétition, je vais courageusement jusqu'au bout pour essayer de gérer la douleur, quoi. C'est très important aussi.
Et ça, vous avez l'impression, enfin vous avez quelquefois l'envie de sortir de scène et de dire c'est trop douloureux.
Ah oui, on n'a qu'une envie, c'est de pleurer déjà. Et puis, oui, absolument, on a envie de courir, se coucher dans le noir sans bouger. Ouais.
Alors, juste, je voudrais faire intervenir Marc Schwab, docteur, sur ce que disait Virginie Lemoine, c'est-à-dire qu'elle a ressenti les premiers symptômes quand elle était petite. Oui, est-ce que c'est assez fréquent chez les enfants ?
Ben, il y a 10% des enfants qui sont migraineux, à égalité entre le petit garçon et la petite fille. Ça va s'accroître à la puberté chez la petite fille et rester limité chez le petit garçon. Mais effectivement, on peut être migraineux dès qu'on est petit enfant.
Et alors, comment ça se manifeste chez l'enfant ? Est-ce que déjà on arrive à le détecter ? Parce que c'est difficile pour une maman de penser même que la migraine puisse toucher son enfant.
En fait...
ça fait mot de grand, je trouve, migraine.
Oui, mais en fait, l'enfant peut être réellement migraineux et ça se traduit souvent par des troubles digestifs. Le petit garçon a mal au ventre. Et on dit souvent que l'enfant n'a pas envie d'aller à l'école, alors c'est pas ça du tout, c'est la migraine qui débute. Et là, chez la petite fille, on peut avoir des troubles ophtalmiques, c'est-à-dire des troubles de la vision, qui est la vue qui se dédouble, et la douleur de la tête. Et un enfant qui dit j'ai mal à la tête et qui veut aller se coucher, c'est un petit migraineux. Un enfant qui a mal à la tête et qui n'a pas envie d'aller se coucher, qui supporte le bruit et la lumière, ce n'est pas un migraineux.
Ah oui, donc ça c'est un bon critère pour voir entre l'enfant qui n'a pas du tout envie d'aller à l'école et celui qui a une vraie douleur. Sarah, vous avez ressenti ça vous aussi ?
Oui, lorsque j'ai été petite, donc j'ai eu effectivement le problème de la vue. Donc j'ai eu très très mal à la tête, j'étais sur la glace et d'un coup je voyais qu'une partie de mon entraîneur. Donc j'ai eu le trouble ophtalmique et là j'ai eu très peur parce que je me suis dit je vais avoir un malaise, j'ai quelque chose de grave parce que vraiment je ne voyais qu'une partie des personnes autour de moi, qu'une partie de la patinoire. Donc j'ai dit à mon entraîneur, j'ai dit ça va pas du tout, j'ai très mal à la tête, faut que j'aille m'allonger. Et ma mère était venue me chercher, j'étais allée me reposer. Mais à l'époque je ne savais pas ce que c'était. Maintenant j'ai compris maintenant.
Et alors, Delphine Ray, vous avez écrit justement un livre là-dessus. Pourquoi écrire ce livre? Parce que on a l'impression, comme ça, que c'est un sujet un peu léger, pourtant, la migraine. Et vous en faites un livre. Donc, ça...
Alors, non. Deux raisons pour avoir écrit ce livre. La première, comme on avait qu'une patineuse, je dirais que c'est pour briser la glace entre les migraineux et les non-migraineux. Parce qu'il y a vraiment un problème de communication à ce niveau-là. On a entendu le charmant jeune homme dans le micro-trottoir dire qu'il y a encore des femmes qui s'en servent comme excuse. Et la deuxième raison, c'est un petit peu pour faire gagner du temps aux migraineuses, parce que moi, j'ai eu un long parcours de recherche auprès des médecins, etc. J'ai quand même rencontré quelques médecins très incompétents. Enfin, quand je dis médecins, c'est pas forcément des généralistes. Ça peut être des ophtalmologues, par exemple. Les causes étant multiples, et chez moi aussi, c'est multiple. Ça peut être la vue, les cervicales, le stress, etc. Donc, on doit avoir plein de médecins différents. Et l'idéal, c'est de trouver un généraliste qui a cette notion, justement, de causes multiples.
Alors, moi, ce qui m'intéresse dans votre cas, c'est que vous dites, c'est héréditaire. Oui. Mes parents sont atteints de migraine.
Oui.
Et encore, d'une certaine façon pire, mon fils...
Oui, mes deux parents ont eu la mauvaise idée de se marier. Et effectivement, j'ai eu donc un beau cadeau. Et j'ai même hésité, pour vous dire la vérité, j'ai même hésité à avoir des enfants à cause de ça.
À ce point-là?
Oui, parce que ça m'a quand même vraiment gâché la vie. Maintenant, ça va mieux, mais il y a une période, pendant 2 ans, je n'ai rien fait. J'étais au lit avec de la glace sur le front pendant 2 ans. Là, on se pose vraiment la question déjà de son avenir.
À quel moment vous étiez pendant 2 ans comme ça?
Ça, c'est quand j'étais étudiante, parce que là, effectivement, le stress était à son apogée. J'avais des problèmes ophtalmiques. C'est là où j'en veux un petit peu aux ophtalmologues. Ils ont mis 2 ans à s'en rendre compte. C'était vraiment une sale période. Et effectivement, je ne pouvais pas travailler. Je ne pouvais pas avoir d'enfant parce que je prenais des cachets tous les jours. Donc, on ne peut pas être enceinte. Donc, après, j'ai trouvé plusieurs traitements parce que ce n'est pas un traitement qui va nous sauver, c'est plusieurs. Et après, quand ça allait mieux, j'ai donc eu un enfant. Je ne savais pas trop si je voulais une fille ou un garçon, mais quand j'ai su que c'était un garçon, je me suis dit, bon, tant mieux, parce qu'il y aura moins de chances qu'il soit migraineux, puisqu'il y a beaucoup plus de femmes migraineuses que d'hommes.
Oui, mais après la puberté, c'est-à-dire qu'en fin de compte, à l'origine, comme vous le disiez, docteur, avant la puberté, c'est à peu près à égalité, c'est ça?
Tout à fait. Yeah.
Voilà.
On a Virginie encore le moine, je sais, je vous libérerai bientôt, parce que je sais que vous êtes sur un tournage. Vous avez pris une option qui est un peu radicale à un moment, c'est-à-dire que quand vous aviez vos crises, vous disiez, je vais pas me soigner réellement, je vais plutôt assumer la douleur.
C'est-à-dire qu'on rentre dans une spirale de médicaments, parce que la douleur est telle que bon, on se précipite sur les médicaments et finalement on finit par entretenir sa douleur avec la prise de médicaments. Donc quelquefois, mais le corps le dit, hein, quelquefois courageusement je me dis, bon, je ne prends rien, je sais que je vais souffrir à peu près 12 heures, mais je serai sur pied demain. Et sinon, ça va beaucoup mieux aussi depuis que je me suis tournée vers les médecines parallèles, parce que la médecine allopathique, elle soigne les conséquences, elle soigne pas forcément la cause. Et je me suis tournée vers l'acupuncture, vers l'ostéopathie, et puis j'ai un médecin généraliste aussi qui soigne par magnétisme, et ça m'a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien.
Est-ce que ça vous angoisse de vous dire qu'à vie, vous aurez ça?
Alors, je ne sais pas comment réagiront les personnes qui sont sur le plateau et qui ont le même problème que moi. Mais en tout cas, moi, à chaque fois que je sors d'une crise de migraine, je me dis toujours, c'est la dernière, j'en aurai plus jamais. Je ne peux pas vivre avec la perspective de me dire, j'ai ça à vie, c'est impossible. Je me dis toujours, j'en aurai plus.
Virginie,
je ne sais pas si Sarah a le même raisonnement, mais en tout cas, je ne peux pas vivre autrement.
En tout cas, merci beaucoup Virginie pour votre témoignage. Je rappelle que vous êtes toujours en tournée sur Si c'était à refaire avec Francis Perrin et Régine, mis en scène par Laurent Ruquier.
Bernadette Lafont. Oui.
Bernadette Lafont, pardon. Merci beaucoup.
Merci à vous, merci infiniment et bonne émission.
Merci,
à bientôt.
Au revoir Virginie.
Au revoir, merci beaucoup.
Et Alexia, on se retrouve dans quelques instants avec Daisy qui a eu la migraine pendant 35 ans. Vous êtes avec Alexia Laroche-Aubert dans Racontons-nous, la migraine, ce fléau, c'est le thème d'aujourd'hui. Alors si vous êtes migraineux et que cela empoisonne votre quotidien, ou si votre enfant se plaint régulièrement de maux de tête, nous attendons vos témoignages par mail à europe1.fr et au 01 42 32 15 15.
Marc Schwab, je voulais faire juste une dernière intervention sur les enfants. Moi, ma petite fille, elle a été atteinte de ça. Et donc, je suis allée voir le pédiatre qui m'a dit, c'est tout simple, elle manque de sommeil. Est-ce que c'est souvent ça? Est-ce qu'il y a d'autres choses pour résoudre un petit peu le problème de la migraine de l'enfant?
C'est souvent ça chez l'enfant, un manque de sommeil, une espèce de fatigue chronique, une dette de sommeil, mais également le fait d'une déshydratation. Il faut faire boire de l'eau aux enfants.
D'accord, donc boire et dormir.
Boire et dormir, voilà.
On prend tout de suite Daisy. Bonjour Daisy.
Oui,
bonjour.
Alors, vous avez eu une migraine pendant 35 ans ?
Eh oui, 35 ans de migraine, malheureusement. Mais maintenant, eh bien, je vis normalement et très bien même. Je revis.
Attendez, c'est un message d'espoir énorme pour les femmes qui vous entendent, et les hommes, d'ailleurs, on en parlera. Comment ça se fait que vous ayez attendu 35 ans pour aller bien ?
Eh bien, 35 ans, bien parce que je ne suis jamais tombée sur le médecin qui me donne vraiment l'opportunité de faire quelque chose. J'ai pris énormément de traitements, j'ai tout essayé, hein, tout. Et finalement, c'est à la suite d'une visite chez mon cardiologue qui m'a dirigée vers un gynécologue, mais de l'ancienne génération, je dis comme ça parce que bon, cette année, disons depuis l'année dernière, il est à la retraite. Hein.
Donc vous aviez une migraine, en fin de compte, hormonale.
Hormonale, oui. On a pu s'en rendre compte parce que je notais tout. Les moments, les périodes du cycle, tout.
Alors ça, c'est très important. Enfin, je me permets d'intervenir parce que il y a toute une problématique, c'est qu'en fin de compte, on entendait Virginie Lemoine le dire, on refuse en fin de compte d'envisager la prochaine migraine. Donc au final, on se dit c'est la dernière, donc je la note pas.
Ah non.
Et que c'est peut-être une solution, c'est vraiment d'être très rigoureux sur une forme de carnet de santé interne, enfin qu'on a nous, de vos migraines. Vous êtes d'accord, docteur Schwab ?
Oui, c'est ce qu'on appelle un carnet migraine. Et en fait, c'est maintenant en application dans tous les centres anti-migraines, parce qu'il faut dire qu'il y a des centres anti-migraines dans toute la France maintenant depuis une dizaine d'années. Et que dans tous ces centres, on fait tenir un carnet migraine à jour qui tient compte des crises, des traitements qu'on prend, des résultats qu'on a obtenus. C'est un témoin vraiment réel, vraiment objectif de sa maladie migraineuse.
Delphine Ray, vous étiez-vous consciente aussi de ça ? Est-ce que vous notiez jour après jour vos états de migraine ?
Ah oui. C'est vrai qu'on ne le fait pas systématiquement, on ne le fait pas assez. Mais pour revenir à ce que disait cette dame-là, les migraines hormonales sont très très importantes chez les femmes. Or, les généralistes ne le prennent pas en compte. Et les généralistes, en fait, souvent répondent à la femme « Bon, ben, vos migraines sont liées à votre cycle, donc c'est normal. » Comme si c'était normal, comme si ça allait avec la femme, c'est un paquet cadeau.
Oui, c'est ça, c'est la femme la souffrance, voilà. De toute
exactement.
Façon. C'est bien une perception d'homme, ça.
Voilà, un jour...
Excusez-moi, docteur.
Non, mais un jour, un médecin m'a regardé dans les yeux et il m'a dit « C'est pas la peine de vous soigner, puisque à la ménopause, vous n'aurez plus de migraines. » Or, ce jour-là, j'avais 17 ans.
Donc, est-ce que c'est vrai qu'à la ménopause, ça s'atténue ?
D'une part, c'est un discours qui est totalement machiste, parce que je vois pas un médecin oser dire à un homme, écoutez, vous êtes migraineux, c'est pas grave, dans 30 ans vous serez guéri. Je ne vois pas ce genre de discours se faire, donc c'est un discours machiste.
Mais c'est peut-être aussi un discours de mal connaissance.
Oui, de mauvaise connaissance, de méconnaissance. Mmh. Mais c'est aussi une méconnaissance profonde, parce que ça ne cède pas forcément à la ménopause.
Daisy ?
Oui.
Vous, est-ce que ça a été, je sais pas quel âge vous avez ?
J'ai 57 ans.
Donc, est-ce qu'on peut dire que vous avez eu votre ménopause ?
Ah oui.
Et est-ce que vous avez vu une diminution liée à la ménopause ?
Non, moi je veux dire que la diminution vient de mon opération. S'est arrêté. J'ai été opérée au mois de mars.
De quelle opération vous ?
L'hystérectomie. On m'a tout enlevé.
D'accord. Donc ça c'est tous les circuits génitaux.
Absolument. On m'a tout enlevé. Ma dernière migraine s'est reproduite fin juin, donc de la même année, et je me suis dit ça y est, ça n'a servi à rien, et ça a été la dernière. Et depuis 3 ans, je vous dis plus rien. Donc pour moi c'est génial.
Sarah, je vais faire réagir tout de suite Sarah Abibol. Je pense que vous allez peut-être pas passer par des...
Je vais peut-être pas me faire opérer maintenant. Je suis quand même toute jeune, j'ai envie d'avoir des enfants.
Est-ce que vous voyez les signes avant-coureurs de cette migraine ?
On le sent, oui.
C'est quoi les petits repères que vous avez ?
Je sens que j'ai un petit peu mal à la tête et que la grosse migraine va arriver, les yeux en fait sont plus petits aussi, ça fait des cernes plus importantes et on se sent aussi fatiguée d'un seul coup, et c'est quelque chose maintenant que je ressens, je sais très bien, et je le dis, je dis ça y est, là, je suis foutue, donc...
Et vous êtes en panique ou pas ?
C'est vrai que c'est pas agréable, quoi. C'est pas agréable. Donc si je suis à la maison en train de bosser sur un projet, c'est pas grave. Mais si je suis sur la glace et que je vais faire déporter avec la force centrifuge et tout ça, je sais que je vais pas du tout apprécier mon exhibition, mon programme, et que ça va être très dur pour moi.
Comment réagit votre entraîneur face à tout ça ? Est-ce qu'il a été plutôt un partenaire Ou est-ce que vous sentez que ça énerve tout le monde, en fin de compte, dont votre entraîneur?
Non, non, parce que je le prévenais, il savait que je faisais pas de cinéma, ça se voyait, et puis j'allais vraiment au bout des entraînements, même quand j'avais mal, je sortais de piste, je prenais deux Doliprane, et voilà, je savais qu'il fallait que je travaille, sinon j'aurais pas réussi, et il me croyait, j'ai jamais fait de cinéma, mon partenaire aussi, bon, parfois il me disait, t'es un peu chiante quand même, t'as toujours quelque chose, mais ça, c'est souvent les hommes. Mais voilà, donc non, non, je pense que quand on a 20, 25 ans et qu'on est sportif de haut niveau, l'entraîneur sait qu'on ne fait pas de cinéma.
On a Yasmine.
Oui, bonjour à tout le monde.
Bonjour Yasmine. Quelle est votre histoire?
Eh bien, moi, mon histoire, c'est bon, eh bien, comme toutes les histoires de migraineux, depuis 35 ans, je souffre de ça. Et la dernière remonte à vendredi, où j'ai dû fermer l'atelier. Enfin, je ne suis pas venue travailler parce que je me suis levée à 5h30 et j'ai commencé à...
Vous êtes couturière, c'est ça?
Entre le lit et les WC, à vomir. Et puis, bon, une douleur intenable, quoi. J'avais pris un médicament, mais qui est parti tout de suite dans les WC. Et puis, à la longue, on est tellement crevé de vomir que je finis à quatre pattes, quoi. Je suis une véritable loque.
Et donc vous ne pouvez pas recommencer votre travail à ce moment-là. Vous ne pouvez pas travailler.
Ah non, je peux pas. Je peux pas avancer. J'ai 25 km pour venir chez mon travail. Je me voyais mal partir avec la voiture dans l'état où j'étais. C'était impossible.
Et là, on est donc lundi. Il est 14h25. Vous êtes dans quel état?
Là, je suis très bien.
Donc ça a duré quoi? Vendredi, samedi?
Ça a duré vendredi, samedi.
Et ça part d'un coup, la migraine?
Et elle est partie, on ne peut pas dire d'un coup, mais peut-être sans que je m'en rende compte, au bout de pratiquement 2 jours.
Docteur Marc Schwab, je voulais vous faire réagir parce que j'ai lu qu'il y avait 18 millions d'arrêts chaque année, d'arrêts maladie, chaque année dus à la migraine. Donc c'est un vrai fléau en fin de compte.
C'est un vrai fléau sur deux points. D'une part, c'est l'équivalent d'une épidémie de grippe en arrêt de travail, et d'autre part, et là, la dame qu'on vient d'entendre souligne bien, c'est un handicap professionnel très important. On estime que la progression hiérarchique des migraineux dans les entreprises est d'un tiers inférieure à celle des non-migraineux. C'est-à-dire que on leur fait payer leurs arrêts de travail, leurs difficultés de concentration. Et ça, il y avait vraiment un fléau qui vient jouer là, qui vient handicaper les migraineux.
Delphine Ré, je voudrais vous faire réagir, parce que vous êtes professeur.
À mi-temps,
justement, voilà. À cause de ça. Vous pouvez nous l'expliquer
Exactement.
Un petit peu?
Tout simplement parce qu'à plein temps, je ne pourrais pas assurer mon travail, je serais absente régulièrement et que c'est pas dans mon caractère, justement, de faire payer aux autres mes migraines. Donc, j'ai décidé de gagner moins, d'être à mi-temps, mais d'assurer le mi-temps. Alors, ça paraît incroyable parce qu'un mi-temps pour un professeur, c'est pas grand-chose. Mais quand je fais une crise de migraine, comme la dame l'a dit, c'est 2-3 jours au lit. Et alors, ce qui est la caractéristique de cette maladie, c'est que c'est une maladie invisible. Donc, quand on est chez nous, on est une épave. Mais le jour où on revient travailler, c'est pas comme quelqu'un qui revient d'une grippe en disant « je suis encore ». Voilà. Ça se voit pas sur notre tête. Donc, on revient comme on est poli, on fait des grands sourires. Et du coup, c'est « tiens, elle a pris 2 jours, 2 vacances, entre guillemets, quoi ». Donc, ça, c'est très difficile à
vivre. On va justement parler juste après la publicité de la manière dont réagissent vos collègues et inversement, peut-être d'autres compétiteurs pour Sarah Beatball.
Et jusqu'à 15h, Alexia Laroche-Joubert attend vos témoignages, vos réactions au 01 42 32 15 15 et sur europe1.fr. Parlons-nous. Vous êtes avec Alexia Laroche-Joubert dans Racontons-nous, le thème d'aujourd'hui, la migraine, ce phénomène qui parasite 12 millions de Français. Avec nous en studio aujourd'hui, la patineuse artistique Sarah Beatball, en tournée jusqu'au 18 mars dans toute la France avec le spectacle Les Étoiles de la Glace. À ses côtés, Delphine Ray, auteur du livre Les Tribulations d'une migraineuse, paru le 13 février dernier aux éditions Anne Carrière, et le docteur Schwab, neuropsychiatre spécialiste de la migraine.
Justement docteur, quels sont les facteurs déclenchants de la migraine?
Alors le premier de tous, c'est le stress. Deuxièmement, les règles, et c'est pour ça qu'il y a une prédominance féminine. Troisièmement, certains aliments, comme l'alcool, notamment les vins blancs ou le champagne. D'autre part, il y a des facteurs déclenchants qui sont des facteurs mécaniques. On a entendu une auditrice dire qu'elle avait eu des coups du lapin. Et ça, les accidents au niveau du rachis cervical, au niveau de la colonne vertébrale, sont extrêmement génératrices de migraines. Ce sont les facteurs déclenchants essentiels.
Alors, je vais prendre tout de suite parce qu'on en parlait justement à Delphine Ray. Delphine qui racontait que vous êtes à mi-temps en tant que professeur du fait de votre maladie. Donc, ça veut dire que c'est un véritable quand même handicap. Et je voudrais prendre en ligne tout de suite Philippe qui a 47 ans et qui est au chômage. Bonjour Philippe.
Oui, bonjour.
Alors, je dis que vous êtes au chômage parce qu'en fin de compte, c'est probablement le résultat de votre migraine. Vous pouvez nous expliquer ?
Oui, il y a un an et demi environ, en novembre 2005, le 9 novembre exactement, je me suis réveillé pas en forme du tout. J'ai eu beaucoup de mal à conduire pour aller au boulot. J'étais fatigué alors que j'avais fait une dépression qu'il y a un an avant. J'ai repris la forme et mis un peu le point sur ma vie. Et je me suis réveillé très très mal et j'ai pas tenu 2 heures parce que des maux de tête épouvantables, un marteau piqueur, des tôles qui se cognent là-dedans. Et donc je suis tombé après... au travail. Et depuis, j'ai repris après quelques semaines après, et ça a été très très délicat, parce que je manque de rendement, manque de vitalité. Et bon, là, un an, j'ai fait des examens pendant un an, et là, donc, je me suis fait licencier, bien sûr, pour inaptitude.
Ah oui, donc, vous êtes considéré comme, entre guillemets, un handicapé ou pas? Vous avez un statut?
Ben, là, j'ai envoyé le dossier, c'est en cours, c'est tout récent, donc, j'ai envoyé le dossier, et puis, là, c'est pareil, mon médecin m'a mis en arrêt de retour, malgré le chômage, puisque je peux pas, effectivement, reprendre, là, à la NPE, il va me remettre paysagiste, alors que j'ai pas
de gros machines. Mais vous pensez que vous allez retravailler un jour ou pas? Vous avez l'impression que vous sortirez jamais de cette ornière?
Justement, c'est la grosse question de ma vie, alors que bon, je viens de construire, je viens de... Et là, donc, je sais pas, j'écoute de différents témoignages, et moi, c'est des maux de tête épouvantables qui vont... Le noir me fait pas énormément. Disons que je me rends pas compte du noir parce que je dors.
D'accord, vous êtes tellement assommé en fait.
Ah, moi, je vais jusqu'à tomber par terre.
Alors justement, docteur Marc Schwab, je vais vous faire réagir sur une des phrases qu'a dite Philippe. J'étais en dépression et mes migraines sont arrivées après. Moi, c'est la grande question, est-ce qu'il y a une corrélation dépression-migraine ?
Une corrélation, mais pas dans ce sens-là. On peut devenir dépressif parce qu'on est migraineux. C'est-à-dire, c'est pas du psychosomatique, c'est du somatopsychique. C'est-à-dire que à force de souffrir, on finit par craquer. Il faut pas dire que la migraine est une maladie psychosomatique. C'est une maladie comme les autres, une maladie à part entière et qui
donc
peut
une
entraîner
physique.
Une maladie physique et qui peut entraîner, à force de douleur et à force de handicap, un facteur dépressif qui entraîne une vraie dépression.
Est-ce que vous, Delphine, vous avez eu peur à un moment de tomber dans la dépression du fait de cette douleur ?
Oui, enfin, pas vraiment parce que c'est pas dans mon caractère, mais disons que je me suis posé des questions sur mon avenir, c'est-à-dire que dans la période la plus noire, effectivement, je ne voyais pas d'avenir. Donc c'est vrai que je peux pas parler de dépression à ce moment-là, mais de questionnement, et là on cherche du réconfort auprès des amis, et on n'en trouve pas vraiment. C'est là où les petites phrases arrivent, quoi.
Quelle phrase vous entendez ?
Par exemple, une de mes amies, à l'époque, je ne travaillais pas du tout, et une de mes amies un jour m'a dit très naturellement, quand je pense que je travaille et que je suis jamais malade, alors je paye la sécurité sociale, mais en fin de compte, je travaille juste pour te payer tes médicaments.
Et ah oui, ça c'est violent, ça, quand
voilà.
Même. C'est une bonne amie, hein. Je vous l'avais... C'est toujours votre amie ?
Ex. Voilà, mais j'en ai eu plusieurs comme ça, des petites phrases. Il n'y a pas très longtemps, en plus, un copain m'a dit « Je sais ce que tu devrais faire. Quand tu as mal à la tête, tu devrais ignorer ta douleur. »
Alors justement, vous parlez de relation avec les tiers,
oui.
Mais vous parlez aussi, dans votre livre, oui, de votre ex compagnon,
voilà,
et vous expliquez qu'en fin de compte, ça vous a bouffé la vie, cette histoire, votre vie de couple.
Oui, complètement, parce que on pourrait penser que quelqu'un de très proche qui nous voit au quotidien peut comprendre, mais en fin de compte, ça reste invisible, même pour quelqu'un qui vit avec nous. Et bon, moi, n'ayant pas spécialement de vomissements, les nausées, ça se voit pas non plus. Je suis pas du genre à me plaindre, et surtout quand on a mal à la tête, on a besoin de noir. Donc du coup, on n'est pas en train de hanter la salle à manger en se plaignant, mais on va dans la chambre.
Vous êtes reclus, quoi, en fin de compte.
Voilà. Donc, en fin de compte, quand on n'a pas mal à la tête, on est en pleine forme, et sinon, on ne nous voit pas. Donc, il ne comprenait pas vraiment pourquoi, par exemple, après une grosse crise, je ne voulais pas sortir parce que j'étais encore fatiguée, parce que ça épuise. Parce que 2 jours de migraine, on a besoin d'une demi-journée de convalescence. Et il me disait, mais je ne comprends pas, tu n'as plus mal à la tête, tu devrais être en pleine forme.
Donc... Ah oui, donc ça, parce que vous, je rappelle donc que vous êtes restée 13 ans avec votre ex-mari, et pendant 13 ans, vous avez l'impression d'avoir vécu à côté de quelqu'un qui ne comprenait pas le mal dont vous souffriez.
Il essayait de comprendre, en théorie il comprenait, mais en pratique c'est beaucoup plus difficile, parce que par exemple un migraineux a besoin de vraiment dormir correctement. Bon, j'ai pas eu de chance.
Il était insomniaque.
Voilà,
je suis tombée
sur quelqu'un qui faisait des crises de somnambulisme. Donc toutes les nuits j'étais réveillée, donc tous les matins j'étais une vraie loque, et tous les matins je me réveillais déjà avec un mal de tête, parce que je n'avais pas assez dormi.
Vous avez un nouveau conjoint là ou pas ?
Oui, mais je vis pas avec, parce que maintenant j'ai décidé de vivre seule, parce que pour une migraineuse,
voilà. Non, mais attends, donc ça veut dire que vous travaillez à mi-temps à cause de votre migraine, vous refusez de vivre avec un homme, de dormir avec un homme tous les soirs à cause de votre migraine.
Oui.
Sarah Bitbol, est-ce que ça en est à ce point-là ?
Moi, je dors avec mon chien, moi j'ai pas de problème.
Ah ben voilà la solution.
D'ailleurs, le chien qui est juste à côté. Justement, docteur Marc Schaub, il y a 42% des conjoints atteints de céphalée qui ont des répercussions négatives dans le couple. Est-ce que c'est fréquent l'histoire de Delphine Ray ?
Oui, malheureusement c'est très fréquent. Et ce qu'elle a souligné qui est vraiment très important, c'est que les migraines, c'est pas seulement la douleur et les signes d'accompagnement dont on a parlé, c'est le fait qu'il y a une hantise de la crise qui est là. Entre les crises, on a peur d'avoir mal de nouveau. Et d'autre part, il y a le fait que quand on a fait une crise, même si elle a été courte, c'est-à-dire 4 heures ou 6 heures, on a besoin d'une journée pour récupérer. Donc la migraine, c'est pas seulement la crise, c'est le post-crise aussi.
Oui, c'est vrai. Et on est fatigué. C'est-à-dire qu'on se plaint déjà qu'on a mal à la tête, et ensuite on est fatigué pendant 2 jours. Donc sur la semaine, ça peut manger quand même beaucoup de jours de travail.
C'est une maladie qui pourrit la vie, de toutes les façons.
Alors, je voudrais justement prendre Denise au téléphone. Bonjour, Denise.
Oui, bonjour.
Vous dites que vous souffrez de migraines depuis que vous avez l'âge de 18 ans et qu'un rien peut vous faire tomber en crise.
Rien. Le stress, le bruit, la lumière trop forte, tout peut. Il n'y a rien qui déclenche la migraine. C'est pratiquement toutes les semaines j'ai des migraines.
Vous dites une odeur de cigarette même.
L'odeur de cigarette, je ne supporte pas certaines odeurs et ça me provoque des migraines atroces. Jusqu'à ce que j'ai resté 2-3 jours couchée, j'ai des vomissements, j'ai tout le côté, j'ai tout essayé, les traitements, j'ai tout essayé, tout ce qui existe, on m'a fait essayer vraiment tout. Moi, le docteur vient me faire une piqûre, et il y a vraiment, j'ai même acheté un casque migraine, enfin...
Excusez-moi, c'est quoi un casque migraine,
enfin,
Denise?
Un casque que j'ai trouvé qui peut m'alléger les migraines, un truc comme l'homéopathie, enfin c'est un truc comme ça.
Et ça a fonctionné?
Non. Il n'y a rien.
Donc c'est
rien,
plus. Ça, est-ce que vous avez l'impression, docteur Schwab, qu'il y a beaucoup de techniques un peu qui tiennent du charlatantisme?
Oui, beaucoup, oui. Beaucoup.
Alors, docteur, parce que moi, on m'a parlé du Botox, justement, qui était la dernière solution. Qu'est-ce que vous en pensez, docteur?
Le Botox a été une petite mode à un moment donné, c'était il y a 2 ans, et puis c'est tombé dans l'oubli parce que ça n'a aucun effet. Mais malheureusement, il y a beaucoup de charlatanisme dans la migraine. Et effectivement, il y a même des appareils de stimulation électrique antidouleur qui se vendent à des prix prohibitifs, qui sont dits anti-migraineux et qui se voient dans certaines pages de certains journaux. Faut savoir que ces appareils sont commercialisés au Luxembourg, en Suisse, où la législation n'est pas la même.
Ils ne sont pas reconnus par
la sécurité sociale. Et d'autre part, il y a beaucoup de médecins qui sont, Delphine Ray le disait, qui sont incompétents au niveau migraineux, parce qu'il y a un défaut de formation au niveau de la migraine chez les médecins. Il faut le savoir, ça.
Et je rappelle que vous êtes avec Alexia Laroche-Joubert de Racontons-nous. La migraine, c'est le thème d'aujourd'hui. Alors si la migraine de votre conjoint débute souvent à la fin du film de 20h30, tiens. Ou si votre enfant se plaint régulièrement de maux de tête, nous attendons vos témoignages au 01 42 32 15 15.
Est-ce que Philippe est toujours avec nous ?
Oui.
Oui, Philippe, je voulais vous faire réagir sur un thème dont on va parler avec les jeunes femmes qui sont ici, c'est le rapport vie sexuelle et migraine.
Oui.
On dit qu'en fin de compte, il y a une, pour l'homme, ça peut se manifester au moment de l'orgasme. Est-ce que vous avez connu ça, vous ?
Non, je peux pas dire, non. Non, je peux pas dire que ça... Je peux pas dire au niveau de l'orgasme, après avoir fait l'amour, oui, là j'ai des violents maux de tête au niveau vertige, au niveau bourdonnement, au niveau
fatigue générale, c'est-à-dire que oui. Et puis,
oui, ça vous atteint quand même.
Comment?
C'est-à-dire que ce qui devrait être un acte de oui. justement qui vous détende, oui. au lieu de ça, ça vous apporte une migraine. Je voudrais faire justement réagir Marc Schwab là-dessus parce que il y a beaucoup d'études qui ont été faites sur le rapport parce que contre la vie générale de dire j'ai la migraine donc je veux pas faire l'amour. En l'occurrence, il y a une vraie conséquence sur les hommes, c'est ça, au moment de l'orgasme.
Tout à fait. Oui. Il y a beaucoup d'hommes qui, enfin, quand ils sont migraineux, qui ont la crise de migraine au moment de l'orgasme.
Et alors ça, quelles sont les conséquences pour eux?
Ben, une vie sexuelle est complètement perturbée. Et ça, c'est une vie conjugale perturbée, donc une vie familiale perturbée. Donc souvent, ben, comme pour Delphine, des dégâts au niveau du couple, parfois irrémédiables.
Parce que je suppose que, on doit, quand on est un garçon comme ça, qu'on se dit qu'au moment de l'orgasme, on va avoir une douleur énorme au lieu d'un plaisir.
Alors on évite de faire l'amour.
On évite de faire l'amour, et donc, même on doit avoir peur de faire l'amour,
tout
non?
Tout à fait, oui. Mais c'est ce que je vous disais, c'était la hantise qu'il y a dans le fait d'être migraineux. Entre les crises, on essaye d'éviter les facteurs déclenchants.
Alors justement, Delphine Ray, est-ce que vous, la migraine, vous avez eu l'impression que ça vous a fait baisser votre libido?
Pas du tout. Non, en fait, il faut bien jouer.
Surtout les hommes n'écoutez pas, ceux à qui on sert toujours qu'on a une migraine.
Parce qu'il faut justement que le mari connaisse bien la chose. Parce qu'en en fin de compte, quand, comme le disait Sarah, on sent que ça va arriver. Et au début, c'est léger. Donc à ce moment-là, si le mari est présent et malin, il peut effectivement aider sa femme à se détendre. Mais après, s'il n'est pas là, c'est trop tard.
Ce que vous voulez dire, c'est qu'au signe avant-coureur de la migraine, puisque vous le savez, la détecter maintenant, ces signes, il faut mieux faire l'amour, parce que ça, en fin de compte, ça procure comme un antidote.
Oui,
à
ça
cette
peut
migraine.
Passer, oui.
C'est vrai, Sarah?
Oui.
Ah, bah, dites-moi.
Elle a testé aussi, hein, vous remarquez.
Mais d'ailleurs, il y a une étude qui a été parue quand même pour accréditer cette thèse, ce cas pratique, pardon, qui est donc une thèse, parue aux États-Unis qui suggère que la migraine n'interfère pas dans la vie sexuelle, mieux encore, elle améliore la libido, parce qu'en effet, les femmes y voient un soulagement de la douleur.
Oui, c'est vrai.
Vous avez des cas, vous, comme ça, docteur?
Oui, tout à fait. C'est par le biais des endorphines, ces fameuses molécules qui sont des morphines naturelles qui sont sécrétées au moment de l'orgasme, qui peuvent améliorer la migraine et la supprimer de manière temporaire, mais la supprimer.
Vous avez déjà utilisé, vous, les filles, le prétexte de la migraine?
Non, alors ça, jamais, parce que justement, ça serait horrible, justement, de l'utiliser un jour et qu'on ne nous croit pas. C'est-à-dire qu'un jour où vous avez mal et on ne vous croit pas, ça serait trop horrible. Donc, moi, je vais même vous dire la vérité, c'est qu'une fois, mon mari n'avait pas envie de sortir et il m'a dit, t'as qu'à dire que t'as une migraine. Je lui dis, non, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas. On va dire n'importe quoi, n'importe quelle excuse, mais jamais je n'utiliserai la migraine pour excuse.
Et Sarah?
Non, moi pareil, non. C'est tellement terrible d'avoir mal que jamais je le dirais comme ça bêtement en disant non, aujourd'hui je fais pas ça, j'ai mal à la tête. Je trouverai un autre prétexte, mais ou alors je dirais carrément j'ai pas envie, mais je trouverai pas ce prétexte-là. Non.
Alors vous en parliez, Delphine, est-ce que d'une certaine façon, parce que vous êtes obligée à un moment de dire j'ai la migraine, je peux pas sortir, oui. Ça handicape votre vie, est-ce que vous avez été prise pour une emmerdeuse?
Ben, on n'a pas osé me le dire, peut-être. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que des fois, j'ai la migraine et je trouve une autre excuse. Parce qu'il faut changer un petit peu les excuses. Parce qu'en fin de compte, mon excuse, ça serait toujours la même. Et comme c'est chronique, j'ai peur justement de lasser. Donc, on évite de donner une excuse. Ou on dit, j'étais fatiguée. Mais on ne dit pas tous les jours, j'ai la migraine. Parce qu'effectivement, après, on se dit, ils vont en avoir marre. Et,
Ça, c'est quelque chose qui peut peut-être amener à la dépression. C'est l'incompréhension des tiers face au mal qui nous ronge, mais qui ne se voit pas, parce que c'est vraiment important. Enfin, ce que je retiens de tous les entretiens, c'est cette maladie invisible. Donc, les gens, c'est pas comme quand vous avez un bras cassé ou quand vous avez un handicap clair et net et visible. Là, d'un coup, on se dit, mais c'est de l'imaginaire.
Et ben là, tout à fait. Et Delphine Rain le dit bien. Entre les crises, on est normal. Entre les crises, on n'a rien. Et donc, les autres voient vraiment une personne qui se porte bien, puisque quand elle ne se porte pas bien, ils ne la voient pas. Elle est cloîtrée dans le noir. Donc pour les migraineux, c'est un double handicap.
Je ne sais pas si Delphine, ça te fait ça, mais moi, ça se voit beaucoup au niveau des yeux, du regard.
Bah, malheureusement, non, moi, ça ne se voit pas.
Non, ça ne se voit pas.
J'aimerais bien.
D'accord.
Oui, parce que vous, ce que vous dites, Sarah Bitbol, c'est que votre maman, c'est tout de suite quand vous êtes atteinte de migraine, parce que vous avez les yeux, vous dites injectés de sang.
Oui.
C'est quand vous avez des stries.
J'ai les yeux plus petits, injectés de sang, je suis pas très belle. Et j'ai des, j'ai les yeux qui se creusent, et elle me dit, toi, là, aujourd'hui, t'as mal à la tête. Et je lui dis, bah oui.
Ouais. Mais ça, c'est les mamans qui font attention aux enfants. Ce qui n'est pas le cas pour vous, Delphine, de votre compagnon, qui en fait, au bout de 13 ans, vous avez divorcé. Alors, est-ce que c'était, est-ce que si vous êtes honnête, vous pouvez dire que au final la migraine était la vraie raison, ou est-ce que c'est juste révélateur de problèmes sous-jacents comme dans n'importe quel couple?
Voilà, exactement. Je dirais que c'est, du coup, c'est lui qui s'est inconsciemment servi de la migraine, je pense, pour cacher d'autres problèmes. Et du coup, en fait, voilà, c'était pas ce soir, chérie, mais c'était on va divorcer, chérie, mais c'était pour d'autres raisons qu'il a compris plus tard, en fin de compte, parce que c'est facile. Enfin, nous, moi aussi, je pensais que la migraine c'était le premier problème, lui aussi, et puis en fin de compte, après coup, on a quand même réalisé qu'il y avait d'autres choses. Sans migraine, je ne sais pas si on serait encore ensemble.
Stéphanie, bonjour. Stéphanie ?
Oui, bonjour.
Bonjour, vous avez 30 ans, vous êtes 4 commerciales.
Tout à fait.
Vous êtes migraineuse également ?
Je suis migraineuse, oui, ça va faire 15 ans.
Et comment vous gérez la situation ?
Alors, comme j'expliquais au téléphone à l'assistante, je gère moi-même. C'est-à-dire que j'ai essayé plein de médicaments. J'ai trouvé un truc tout simple qui est la codéine. Je prends du codoliprane. Et en fait, bah, je prends des médicaments de façon régulière. Toutes les semaines, j'en ai dans mon sac à main, j'en ai à la maison, dans ma voiture. Mon conjoint en a. Et puis en fait, bah, je me drogue à ça pour passer mes migraines, parce que j'ai quasiment tous les facteurs qui ont été énumérés, moi, me déclenchent une migraine.
Alors justement, Stéphanie, vous dites « je me drogue à ça ». Est-ce que vous n'avez pas l'impression que cette automédication peut être dangereuse pour vous ?
On m'a déjà prévenu que ça pouvait être dangereux, mais la migraine, c'est quelque chose de tellement violent. Le jour où vous trouvez quelque chose qui vous soulage, c'est un soulagement qui est tel. Moi, je suis presque dans un état second, il faut le dire. Hein. Moi, j'ai l'impression d'être une droguée, j'ai un pharmacien qui me l'a dit. Ça vous met dans un état second, mais presque euphorique par rapport à la douleur que vous avez vécue quelques temps avant.
Alors Stéphanie, on vous reprend tout de suite après une page de publicité pour voir justement comment vous gérez ça au quotidien.
Et je rappelle aux autres auditeurs qui souhaiteraient intervenir et apporter un témoignage que le numéro du standard, c'est le 01 42 32 15 15. Vous êtes avec Alexia Laroche-Aubert dans Racontons-nous, le thème d'aujourd'hui, la migraine. Avec nous en studio aujourd'hui, la patineuse artistique Sarah Abitbol. À ses côtés, le docteur Schwab, neuropsychiatre, spécialiste de la migraine et auteur de Migraine et maux de tête aux éditions First, et Delphine Ray, également auteur du livre Les tribulations d'une migraineuse aux éditions Anne Carrière.
Alors Stéphanie, vous êtes toujours avec nous ? Alors, Stéphanie, vous dites donc que vous faites de l'automédication, et ça ne vous fait pas peur, ça?
Non, ça ne me fait pas peur, parce que j'ai l'impression que ce que je prends, c'est vendu en vente libre, donc j'ai pas l'impression que ce sera nocif.
On vous entend mal, Stéphanie. Je vous fais intervenir dans quelques instants. Je voudrais juste me retourner vers le docteur Marc Schwab, que l'automédication doit sûrement faire hurler.
Non, c'est-à-dire que l'automédication, le problème, c'est qu'on court un risque, c'est de rentrer dans ce qu'on appelle la céphalée chronique médicamenteuse. C'est-à-dire que l'organisme est tellement habitué à être intoxiqué par des médicaments que finalement, dès que le dosage de ces médicaments baisse dans le sang, le mal de tête réapparaît.
Mais alors, vous parlez de quelque chose de plus grave. Vous dites que ça peut amener à une dépendance et donc à une hospitalisation.
Oui, c'est-à-dire que à partir du moment où on devient dépendant d'un médicament, que ce soit la codéine ou autre chose, mais d'un médicament fort et qui on ne peut plus se passer, le seul remède, c'est de se faire hospitaliser pour faire ce qu'on appelle un sevrage. Et ça se fait avec une perfusion. Ça dure à peu près une semaine ou une dizaine de jours. Et après, malheureusement, il y a souvent des rechutes.
Stéphanie, vous êtes de nouveau avec nous ?
Oui, je suis avec vous.
Quand vous entendez que le risque d'accoutumance du fait de votre automédication peut vous amener à l'hospitalisation, vous me dites quoi ?
Je vous dis que de toute façon, l'accoutumance, moi, je sais que j'y suis déjà. Et c'est vrai que c'est un peu bête, mais c'est comme un fumeur à qui vous dites qu'il va avoir le cancer. Je crois que tant qu'on ne le vit pas, on ne se rend pas compte. Et par contre, tant qu'on sait qu'on est soulagé, c'est un peu compliqué, quoi. On a du mal à se projeter, en fait, dans une situation dramatique, vu que ce qu'on prend soulage une situation qui était dramatique. Oui.
Et vous avez essayé d'aller voir quand même tout de même un médecin, tout simplement ?
J'en ai discuté, moi, avec mon médecin, que j'avais des migraines. On m'a donné des traitements pour les migraineux. J'avais essayé il y a plusieurs années des traitements et ça m'avait rien fait. Donc, du coup, moi, je me suis mise à essayer un peu tout ce que je trouvais. Et puis, la codéine étant vendue en vente libre, en plus en pharmacie, c'est rassurant parce que vous vous dites qu'ils vont pas vendre en vente libre des choses qui vont vous détruire la santé.
Malheureusement, c'est pas sur le principe de surmédicamentation. Je vais le dire, y arriver. D'ailleurs, le docteur Schwab, à mon avis, veut réagir à tout ça.
Mais c'est-à-dire que là, le problème, problème, c'est que il y a une mauvaise prise en compte de la migraine dans le niveau thérapeutique, dans la mesure où là on se traite de façon chronique avec des médicaments qui sont faits pour la crise. C'est-à-dire que des traitements de crise, des traitements aigus, des traitements d'attaque ne doivent pas se transformer en traitement de fond de la migraine.
Alors, ce qui est fou, Sarah, je le dis juste à Sarah Bitball, parce que évidemment les auditeurs vous ne le savez pas, mais pendant la publicité vous m'avez demandé un verre d'eau parce que vous avez peur d'avoir cette migraine. Vous sentez des symptômes là?
Je sais pas si c'est le fait d'en parler ou d'être, je sais pas, j'ai peur, donc j'ai pris un verre d'eau parce que j'ai l'impression que ça va arriver. Alors, c'est peut-être psychologique, je sais pas, mais.
Et alors moi, inversement, quand j'ai lu le livre de Delphine Rey, j'ai eu mal à la tête.
Désolée.
Alors pas du tout parce que votre livre est mauvais, parce que je trouve ça passionnant que quelqu'un ose écrire un livre là-dessus. Mais est-ce qu'il y a des actes comme ça de contagion, docteur?
De contagion, non, mais d'identification, oui. Par contre, ce qui peut faire hurler un migraineux, c'est d'entendre quelqu'un qui a mal à la tête dire j'ai la migraine. Ça, je crois que c'est quelque chose qui peut faire vraiment réagir de manière violente. Mais par contre, le fait de s'identifier lorsque la personne décrit bien sa migraine et de ressentir à peu près les mêmes symptômes, ça arrive.
Alors, je vais prendre Claire en ligne. Bonjour Claire.
Bonjour.
Alors vous avez une technique pour contrecarrer votre migraine qui est un peu surprenante. Qu'est-ce que vous faites?
C'est l'auto-hypnose. Ah. J'ai fait de l'hypnose avec un psychiatre pendant à peu près 18 mois.
Claire, on a encore un problème de liaison à se demander si ça vient pas d'Europe 1. Je regarde tout le monde en régie qui me regarde avec des gros yeux. Claire, donc pratique l'hypnose. Est-ce que c'est une technique, ça, docteur?
Oui, l'hypnose est une technique qui est relativement efficace. C'est une technique de médecine non allopathique qui peut être efficace, qui, si elle est bien effectuée par quelqu'un qui est habitué à la technique de l'hypnose. Et ça se trouve dans les centres antidouleurs ou dans les centres antimigraineux.
Mais alors ça veut dire qu'on est amené, pour quelqu'un qui est vraiment atteint de ce mal, au même titre que Delphine et Sarah, c'est-à-dire vraiment avec une vraie fréquence, vous devez le faire combien de fois? Est-ce que, par exemple, on se dit, on le fait une fois par mois et c'est bon?
On peut effectivement faire 3-4 séances d'hypnose et ensuite avoir suffisamment appris l'hypnose pour se faire de l'auto-hypnose. Mais ce qu'il faut tout de même rappeler, parce que là on est un petit peu pessimiste, c'est qu'il y a des traitements efficaces à condition de respecter certains principes. C'est-à-dire que la migraine, c'est une maladie qui est plurifactorielle, on l'a bien dit. C'est comme une sinusite. Si vous traitez une sinusite infectée par uniquement des antibiotiques, vous n'allez pas guérir. Si vous la traitez uniquement par des anti-inflammatoires, vous n'allez pas guérir. Si vous la traitez uniquement par des médicaments qui agissent...
Mais ça veut dire quoi? C'est
ce qu'on appelle la trithérapie. C'est l'addition de médicaments qui agissent sur les artères, parce que la migraine est une maladie des artères, sur les facteurs déclenchants nerveux d'autre part, et enfin sur un facteur qui sont les plaquettes sanguines. Et si on associe ces trois traitements en même temps, pendant à peu près 8 à 9 mois, on peut arriver à se sortir de la migraine. Il y a tout de même une note positive qu'il faut qu'on arrive à donner.
L'acupuncture, excusez-moi.
Pardon, allez-y Sarah, parce que vous avez tenté l'acupuncture.
L'acupuncture m'a fait beaucoup de bien aussi, à raison d'une fois par semaine. L'acupuncteur sentait en fait que j'étais stressée au niveau de la tête, que ça venait du stress. Et ça m'a fait beaucoup de bien, donc je le conseille aussi d'essayer l'acupuncture.
Et alors, moi j'ai une petite question idiote. Est-ce que le magnésium, le manque de magnésium, peut être aussi peut amener à avoir des migraines?
Tout à fait. Et notamment, Delphine Rey parlait des migraines menstruelles, enfin des migraines des règles. En Italie, c'est le ministère de la Santé qui a financé une étude sur les migraines des règles pour montrer aux médecins italiens que les migraines des règles étaient plus douloureuses, plus difficiles à faire passer. Donc on devait y faire beaucoup plus attention et traiter de manière beaucoup plus sérieuse ces migraines-là que les autres. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne voit pas en France, de prise en compte de la migraine au niveau du ministère de la Santé.
Alors, moi Delphine Rey, dans votre livre, vous dites quand même que vous vous préparez 3 jours avant de sortir. Est-ce que c'est pour vous, en fait, comme une forme d'automédication? C'est-à-dire que, au final, peut-être qu'on se dit, on sort plus, on voit plus d'amis, on n'est plus exposé à la lumière.
Les amis, on les fait venir à la maison.
Non, mais c'est vrai, vous vous préparez comme ça?
Ah oui, là, par exemple, ça fait 2 jours que je me couche tôt, que je mange régulièrement, léger, etc. Oui, c'est une discipline.
Pour cette interview?
De sportif. Pour ne pas avoir de migraine aujourd'hui, oui. Pour être sûr d'être bien aujourd'hui.
Et donc ça, c'est un entraînement du corps?
Oui. Je suis obligée, en fait. J'ai pas le choix.
C'est surtout la foule, les grands magasins, le bruit aussi. C'est un fait déclencheur.
Moi,
je
sais que
quand je fais les magasins, j'ai un peu peur d'aller faire les magasins parce que je me dis, je vais avoir mal à la tête.
Sarah, est-ce que vous avez l'impression d'être déclencher une parano face aux éléments extérieurs?
Non, pas parano, mais c'est pas facile à gérer, on va dire. Là, je sais très bien que j'ai le cycle aussi qui va arriver. Là, je pars en tournée de gala, donc je sais que je vais avoir une migraine, que je vais avoir mal à la tête. Donc, il me faut mon doliprane dans mon sac ou dans ma valise, parce que si c'est à l'aéroport ou si c'est dans le train ou si c'est sur la... Il me faut mon doliprane à côté de moi. Et je sais que je vais avoir mal et que je vais souffrir et que je vais passer 6-7 heures sur glace. Donc, c'est pas évident, vraiment.
Docteur Schwab, juste, est-ce que vous avez l'impression que la pollution peut être aussi un facteur déclenchant?
Alors, la pollution, et cela depuis 2-3 ans, a été reconnue comme un facteur aggravant des migraines. Donc, c'est-à-dire que les migraines citadines sont plus fréquentes que les migraines rurales. Et ce facteur a été maintenant bien isolé et bien mis en étude par certains auteurs. Et ça fait partie des facteurs de la vie courante qui handicapent les migraineux. Les migraineux sont beaucoup plus fragilisés par rapport à ceux qui sont non migraineux dans la vie courante.
Sarah, on va terminer par ça. Des petits trucs, je vais vous demander à l'une et à l'autre, comme ça pourra probablement aider les auditrices qui nous écoutent et les auditeurs. Sarah, qu'est-ce que vous faites, vous ?
En général, dans le noir, avec un gant frais sur le front ou des glaçons. Moi, je peux m'allonger sur la glace, remarquez, ça peut être pas mal.
C'est pour ça que vous êtes devenue patineuse.
Et masser aussi autour des tempes, ça fait du bien. Doliprane, j'avais essayé Icaran aussi, un médicament assez fort qui peut faire du bien aussi pour le mal de tête. Je ne sais pas ce qu'en pense le docteur.
Oui, effectivement, mais vous avez plusieurs médicaments qui sont efficaces. Le tout, c'est de les utiliser de manière pratique et réellement associée.
Delphine ?
Alors, pour les traitements en deux mots, moi je dirais que pour les femmes, je leur conseille d'aller voir leur gynécologue, c'est vraiment le premier facteur, la mésothérapie, kiné, etc. Je voudrais reparler des hommes qui ont des problèmes, il y a des bêta-bloquants qui soignent les problèmes au niveau de l'orgasme, l'orgasme n'étant pas un problème, mais quand ils ont mal à la tête.
Ah ben non, parce que conséquence grave.
Ça concerne 500 000 personnes quand en France, et ils n'osent pas en parler à leur médecin, ce qui est tout à fait compréhensible. Donc il faut qu'ils sachent qu'il y a
en gros aller voir les médecins, c'est ce qui est le plus important. Julia, demain
nous recevrons Justine et Pauline Delpech, la belle-fille du chanteur Michel Delpech, pour parler de leur combat contre l'anorexie.
Nous écoutons d'ailleurs tout de suite Pauline Delpech.
Retrouvez-moi demain et je vous parlerai de l'anorexie, qui est cette terrible maladie, cet enfer que traversent beaucoup de jeunes femmes. J'ai sombré pendant 5 ans dans cette maladie et j'essaierai de vous faire comprendre le dégoût de soi qu'on peut éprouver, ce long suicide qui nous habite, cette envie irrépressible de mourir et les cris désespérés que peuvent lancer ces jeunes filles. Je vous retrouve demain avec Alexia.
Nous aurons aussi le témoignage de Justine qui vient de publier un témoignage bouleversant. Ce matin, j'ai décidé d'arrêter de manger. Merci à tous les auditeurs qui ont suivi cette émission. Sarah Bidbol, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes en tournée dans toute la France avec le spectacle Les Étoiles de l'Atlas. Delphine Rey, je vous remercie. Votre livre s'intitule Les Tribulations d'une migraineuse. Ça se lit agréablement.
Merci.
Ça ne donne pas que mal à la tête.
Heureusement.
Paru le 13 février aux éditions Anne Carrière. Merci Docteur Schwab. La parution de votre livre est également aux éditions First. Le petit livre des maux de tête et migraine. Dans un instant, on retrouve Frédéric Taddeï avec son invité, le producteur de cinéma et président de l'Académie des Césars, Alain Terzion, que par ailleurs, j'embrasse.
Retrouvez tout Europe 1 sur europe1.fr.